Vous écoutez On lit pour vous.
Le parcours du combattant des piétons aînés. Un texte de Véronique Fournier, paru le 3 mai 2024 dans la presse. Véronique Fournier est directrice générale du Centre d'écologie urbaine. Co-signataire, Pierre-Étienne Gendron-Landry, directeur général de Société Logique, Sandrine Cabana-Degagny, directrice générale de Piétons Québec, Michael Oudy, président de la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Avril 2024. Une histoire malheureusement bien ordinaire, qui pourrait être la vôtre ou celle de l'un de vos proches, se déroule en toute discrétion dans les rues de votre quartier. Pierre se prépare à visiter sa femme Jeanne, résidente d'un CHSLD depuis bientôt 3 ans. À 81 ans, Pierre vit toujours dans la maison où ils ont passé leur vie commune et il se rend auprès d'elle 2 fois par semaine. À l'aide de sa canne, il rejoint l'arrêt d'autobus situé à quelques minutes de chez lui. Sur le trottoir plutôt étroit, 2 imposantes poubelles lui barrent le chemin, le forçant à descendre sur la chaussée. Pierre sent dans son dos le souffle des véhicules filant à quelques mètres de lui. Il a toujours peur de perdre l'équilibre. Arrivé à l'arrêt d'autobus, les jambes légèrement flageolantes, Pierre attend debout. L'arrêt se résume à un poteau sur lequel les heures de passage affichées sont si petites qu'il ne peut les déchiffrer sans ses lunettes. Ici, pas de banc pour se reposer ou d'abri pour se protéger des intempéries. Pierre monte dans le bus et aperçoit la façade du CHSLD 10 d'arrêts plus tard. Pour s'y rendre, il doit traverser une intersection fréquentée. Le feu de circulation passe au vert. Pierre prend une grande inspiration avant de s'élancer. Il sait très bien que le temps de traverser est trop court pour les personnes qui marchent à sa vitesse. Arrivé seulement à mi-chemin, la main clignotante du feu piéton s'allume et un coup de klaxon se fait déjà entendre quelques mètres plus loin. Accélérant le pas, Pierre atteint l'autre côté de la rue lorsque le feu de circulation est déjà rouge, essoufflé et nerveux. Il est désormais à 100 mètres de l'entrée. Sur le trottoir discontinu qui relie le stationnement bitumé à l'accueil, Pierre doit enjamber une bordure et se frayer un chemin entre les voitures dont la hauteur diminue sa visibilité. En franchissant, enfin, la porte d'entrée, Pierre a une nouvelle fois déjoué les statistiques. Au Québec, en 2022, parmi les personnes piétonnes, les plus de 65 ans représentaient 1/4 des blessés graves et près de la moitié des 79 décès, SAAQ 2024. Des zones santé. Loin d'être un cas isolé, l'histoire de Pierre illustre les obstacles auxquels font face les usagers et usagères aînés aux abords des installations de santé et même au-delà. Ces établissements, tels que les hôpitaux, les centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, ou les centres locaux de services communautaires, CLSC, sont pourtant des lieux de destination importants fréquentés tant par les bénéficiaires de soins que par leurs proches. Et la tendance va s'accentuer. En 2066, les personnes de 65 ans et plus composeront 27,7% de la population québécoise contre 20% en 2020. Dans ce contexte, pourrions-nous envisager la santé au-delà des murs de ces établissements pour favoriser le vieillissement actif et s'inspirer de la zone scolaire pour aménager leurs abords de manière sécuritaire et conviviale. Plusieurs pistes d'action sont à notre portée, dont l'une est incontournable. Établir les installations de santé au cœur de milieux de vie mixtes, desservis par les réseaux de transport et dans le périmètre urbain existant. Les municipalités planifient de plus en plus leur territoire sous la lunette du vieillissement actif. Intégrer les lieux d'achalandage, tels que les installations de santé, dans les plans de déplacement ou de stratégie de sécurisation des rues, est un prochain pas à franchir. L'actuelle révision du Code de la sécurité routière aurait été l'occasion d'adopter une vitesse par défaut de référence à l'intérieur d'un périmètre urbain de 30 km/h pour faciliter l'apaisement de la circulation aux alentours des établissements et, pourquoi pas, dans le cadre du plan d'action en sécurité routière 2023-2028, d'explorer davantage la notion de zone santé. Les établissements peuvent également s'engager dans une démarche de concertation et de planification pour mieux aménager leur site, afin de contribuer à des environnements sûrs pour tous et toutes. Car, lorsque les milieux de vie sont pensés en faveur de l'usager le plus vulnérable, Pierre peut aller rejoindre sa femme l'esprit léger, mais c'est aussi Hugo avec sa poussette et Mathilde avec son fauteuil roulant qui en profite. C'était Le parcours du combattant des piétons aînés, un texte de Véronique Fournier, paru le 3 mai 2024 dans La Presse.
Luxuriance arctique, un texte de Joël Leblanc, paru dans le magazine Quatre Temps, printemps 2021. Volume 45, numéro 1. Il y a 45 millions d'années, des forêts subtropicales poussaient au nord du cercle polaire arctique. À cette époque, polaire ne signifiait pas froid. Été 1986. James Basinger, botaniste et paléontologue à l'Université de la Saskatchewan à Saskatoon, se rend avec une poignée de collègues sur l'île Axel Heiberg, tout au nord de l'archipel arctique canadien, à la recherche de forêts fossilisées. Les membres de la petite expédition savent que les restes d'arbres ne sont pas rares dans les îles de l'Arctique, puisque les explorateurs du Grand Nord en ont souvent fait mention dans leurs rapports depuis le 19e siècle. Au sein des strates charbonneuses, il est possible de trouver des branches, des fragments de troncs, des frondes de fougères. Leur découverte a largement dépassé les attentes. Nous ne nous attendions pas à trouver quelque chose d'aussi parfaitement conservé, se souvient James Basinger. Dès notre arrivée sur les lieux, nous avons été estomaqués. Nous avions presque l'impression de marcher dans une forêt dont les arbres étaient tombés la veille. Des souches d'arbres disposées çà et là, parfois isolées, parfois rapprochées, d'énormes troncs de 10, de 15, de 20 mètres gisant sur le sol, une épaisse litière de feuilles mortes, de cônes, de graines, de brindilles. Pendant quelques semaines, sous la lumière permanente de l'été polaire, à seulement 1100 km du pôle Nord, les chercheurs ont exploré une forêt fantôme figée dans le temps depuis 45 millions d'années. Desséchée et conservée par le froid de l'Arctique, une forêt humide subtropicale. Un état de préservation exceptionnel. L'équipe a découvert d'autres affleurements d'anciennes forêts sur l'île Axel Heiberg et sur l'île voisine d'Ellesmer. Les espèces ligneuses dominantes, Metasequoia et Glyptostrobus, des arbres de la famille des séquoias et des cyprès, poussent aujourd'hui uniquement dans des marais de la Chine centrale. Il formait à l'époque une canopée fermée, haute de 25 à 40 mètres, sous laquelle prospéraient d'autres espèces, fougères, noisetiers, magnolias, platanes. Cette forêt devait ressembler aux Everglades de la Floride d'aujourd'hui, ou les marais d'Okefenokee au sud de l'État de la Géorgie. Des arbres imposants, poussant sur des basses terres inondables, entourées de marais, explique James Basinger. Il ne s'agit pas d'une forêt fossile ou pétrifiée, car les arbres n'y sont pas fossilisés au sens habituel du terme. Le chercheur préfère l'expression « forêt momifiée ». C'est fascinant, car le bois de ces arbres peut encore être fendu. On peut le graver avec un couteau. Il brûle comme du petit bois d'allumage. Fait très rare, les conditions de préservation ont en effet empêché la minéralisation des tissus végétaux. Le scénario le plus plausible est qu'une inondation majeure a recouvert le sol d'une couche de limon de quelques mètres d'épaisseur. Prise sous la chape étanche des sédiments, la matière organique aurait été isolée de l'eau et se serait desséchée sans que des minéraux puissent s'y accumuler pour la pétrifier. La nuit polaire, sous un climat chaud et humide. Le plus frappant est le contraste entre la luxuriance d'autrefois et la désolation d'aujourd'hui. En 1986, comme en 2021, même au plus fort de l'été, le thermomètre atteint rarement les 10 degrés Celsius et il faut presque ramper au sol pour repérer les quelques plantes qui parviennent à pousser. Peu d'entre elles atteignent la hauteur d'une botte de marche. Et la seule plante ligneuse est le saule herbacé Salix herbacea qui ne dépasse pas les 10 cm. La situation a drastiquement changé dans ce secteur depuis 45 millions d'années. La température de l'époque devait rarement descendre sous le point de congélation, même en pleine nuit polaire. Et l'été, la température moyenne devait osciller autour des 20 degrés Celsius. Les îles de l'Arctique auraient-elles déjà été sous des latitudes plus chaudes en raison de la dérive des continents? Les archives géologiques ne soutiennent pas cette hypothèse. En fait, l'île Axel Iceberg a bougé d'à peine 100 km vers le pôle Nord au cours de ces 45 millions d'années. Les archives géologiques révèlent plutôt que la Terre était particulièrement chaude à cette époque, avec des taux de dioxyde de carbone, CO2, élevés et un effet de serre important. Le régime des courants marins apportait plus d'air chaud dans la région, notamment en provenance de l'océan Pacifique, par le détroit de Bering, qui était alors plus large. Regard sur le présent. Que nous apprennent les arbres momifiés de l'Arctique canadien? Depuis le passage de Jim Basinger, les souches et les troncs couchés ont été étudiés par d'autres chercheurs, et leur excellent état de préservation a permis de dévoiler énormément d'informations très pointues sur l'ancienne forêt. Jane Francis, paléobotaniste britannique, présente dès la première expédition de 1986, a publié 2 ans plus tard une analyse des arbres situés dans une section de forêt vieille de 50 millions d'années près du fjord Strathcona sur l'île d'Ellesmere. Ces mesures sur 83 souches, certaines hautes de 1,8 mètres, avec des racines s'étendant jusqu'à 5 mètres, ont permis d'établir une densité de 367 arbres à l'hectare soit 183 par terrain de football. Les cernes indiquaient que les conditions de croissance étaient favorables sous un climat tempéré doux avec de fortes précipitations. Vous écoutez Luxuriance Arctique, un texte de Joël Leblanc, paru dans le magazine Quatre Temps, printemps 2021, volume 45, numéro 1. À l'époque, les arbres croissaient à la chaleur et à l'humidité toute l'année, mais devaient survivre à la nuit polaire, c'est-à-dire à environ 3 mois d'obscurité pendant lesquels la photosynthèse était impossible. L'espèce Metasequoia occidentalis, un conifère, arrivait à passer à travers cette disette annuelle en perdant ses feuilles, comme nos feuillus, ainsi que le mélèze, le fond, pour se protéger du froid. Le Metasequoia occidentalis est une espèce éteinte, explique Hong Yang, professeur de géobiologie à l'Université Bryant, au Rhode Island. Mais on en retrouve des fossiles dans presque tout l'hémisphère nord, dès le Crétacé supérieur, il y a une centaine de millions d'années. Or, M. occidentalis a un descendant encore bien vivant, le Metasequoia de Chine, M. glyptostroboides, dont de minuscules populations ont été trouvées en Chine en 1943. L'espèce fossile avait d'ailleurs été découverte et décrite en premier. La surprise a été grande lorsque ces Metasequoias vivants ont été trouvés, poursuit Qin Leng de l'Université Bryant et collègue de Hong Yang. On croyait le groupe éteint depuis 5 millions d'années. Je n'aime pas cette expression, mais on peut dire qu'on avait affaire à une espèce fossile. L'un et l'autre se ressemblent tellement. Une ressemblance effectivement si frappante que les deux chercheurs qui co-dirigent le laboratoire des environnements terrestres de leur université ont mené des expériences sur l'espèce actuelle pour mieux comprendre l'ancienne. Depuis sa découverte en 1943, ajoute Qin Leng, des graines ont été envoyées dans plusieurs jardins botaniques du monde. Des Metasequoias poussent donc dans des conditions de climat variées. Les deux chercheurs ont obtenu des échantillons de feuilles d'arbres de plusieurs Metasequoias. Ils ont trouvé les molécules présentes naturellement dans chacune et ont ainsi pu constituer une base de données en fonction des climats dans lesquels chaque arbre vit. De plus, une expérience très contrôlée a été menée. Pendant 2 ans, on a fait pousser des Metasequoias actuels dans 2 sections d'une serre, l'une soumise à l'éclairage normal de l'état du Maine, l'autre à l'ensoleillement simulé de l'île d'Elsmer, avec son hiver obscur et son été de pleine lumière 24 heures par jour. Grâce à de nouveaux échantillons de feuilles, les deux chercheurs de Bryant ont pu extraire des molécules et mettre en évidence des différences entre les arbres soumis aux différents régimes lumineux. Ils supposent que ces signaux moléculaires chez l'espèce actuelle seraient analogues à ceux qui prévalaient chez l'espèce éteinte. Si par chance, on pouvait trouver les mêmes molécules dans les arbres momifiés, on pourra ainsi brosser un tableau des conditions de vie à l'époque. Justement, les Metasequoias fossiles de l'île d'Elsmer sont tellement bien conservés qu'on peut retrouver dans leur cerne de croissance les molécules produites par l'arbre au cours de sa vie. La température moyenne annuelle d'il y a 50 millions d'années a ainsi pu être estimée par comparaison avec l'espèce actuelle, 13 degrés Celsius. L'humidité relative était aussi très élevée, soit autour de 67 % durant la saison de croissance et près de 100 % vers la fin de cette saison, explique Hong Yang. les forêts momifiées des îles Axel-Eiberg et Ellesmere renferment sûrement encore plusieurs secrets. Pourtant, faute d'un statut juridique assurant leur protection, elles disparaissent chaque jour un peu plus à cause de l'érosion provoquée par le gel, le dégel et le vent. Les bouleversements climatiques actuels réchauffent l'Arctique plus rapidement que le reste du globe, et la chaleur, si elle a permis autrefois l'essor de ces arbres, pourrait paradoxalement causer la disparition de leurs restes. Biogéographie 101. Si la présence d'une espèce à un endroit dépend de conditions environnementales comme la température, l'ensoleillement, les précipitations ou le type de sol, ces facteurs n'expliquent pas tout. Les facteurs historiques, glaciation, déplacement des continents, variation du relief, moment d'apparition d'une île, changement climatique, etc., doivent être pris en considération. À l'Institut de recherche en biologie végétale, IRBV, Anne Bruneau étudie ces questions. Je m'intéresse à la biogéographie des plantes à fleurs. C'est l'étude de la répartition des espèces dans l'espace et dans le temps. Cas classique, la Pangée, ce méga-continent qui, il y a bien longtemps, regroupait la majorité des terres émergées du globe. À cause de la tectonique des plaques, ces mouvements dans les fluides du manteau terrestre qui sont le moteur de la dérive des continents, la Pangée s'est disloquée il y a autour de 200 millions d'années. Les fragments se sont éloignés les uns des autres pour laisser place à l'océan Atlantique. Aujourd'hui, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest, dans les sédiments qui datent d'avant cet événement, on trouve des fossiles semblables, comme les Glossopteris, de grosses fougères à graines. Prenez par exemple une espèce qui pousse aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et au Brésil, mais qui est apparue trop récemment pour avoir vécu sur ces territoires du temps de la Pangée. Comment expliquer qu'on la trouve à ces deux endroits alors qu'ils sont séparés par l'immensité de l'océan Atlantique? Notre hypothèse est qu'il est possible qu'à une période où le climat du globe était plus chaud, l'espèce avait une aire de répartition plus vaste. Elle couvrait toute l'Afrique, l'Europe, les îles britanniques, le Groenland et toutes les Amériques. Depuis, la Terre s'est refroidie et la partie nordique de son aire de répartition est devenue invivable pour elle. La connexion s'est rompue et la distribution actuelle, en Afrique et en Amérique du Sud, est en fait une distribution résiduelle. Les informations génétiques permettent de retracer les liens de parenté entre espèces. C'est ce qu'on appelle la phylogénie. Les informations paléobotaniques et leur datation, elles, permettent de dire que des espèces précises ont vécu à des endroits précis, à des moments précis. Lorsqu'on apparie toutes ces données avec les reconstitutions paléoclimatiques, on arrive à réécrire une histoire dont personne n'a été témoin, celle des vagues de colonisation des végétaux, explique Anne Bruneau. C'était Luxuriance Arctique, un texte de Joël Leblanc, paru dans le magazine Quatre Temps, printemps 2021, volume 45, numéro 1.
On a rencontré un astronaute autochtone à avoir voyagé dans l'espace. Un texte des As de l'Info, paru le 29 décembre 2023 dans La Liberté, au Manitoba. En septembre 2023, les As ont parlé à John Errington, le premier astronaute autochtone à s'être envolé dans l'espace. C'était en 2002. Et son aventure a duré 2 semaines. Comment est-il devenu astronaute? A-t-il aimé son voyage spatial? John te raconte tout ça. As, avez-vous toujours su que vous vouliez devenir astronaute? John, oui. Quand j'avais 8 ans, je m'assoyais dans une boîte en carton et je jouais à l'astronaute. En tant qu'Autochtone, avez-vous dû surmonter des défis pour réaliser votre rêve? Je pense que certaines personnes ne réalisent pas à quel point il est important pour les jeunes Autochtones d'avoir des modèles. Lorsque j'étais enfant, je ne voyais personne comme moi devenir astronaute. Je me disais, je ne pourrais jamais faire ça. La représentation compte. Psst! John fait partie de la communauté autochtone de Chickasha, aux États-Unis. Avant son voyage en 2002, il s'est fait donner en cadeau une plume d'aigle appartenant à ses ancêtres. Il l'a apportée avec lui dans l'espace. Pour John, c'est comme si ses ancêtres voyageaient avec lui. Quel est votre moment coup de cœur de ce voyage dans l'espace? Je pense que c'est lorsque j'ai regardé la Terre depuis l'extérieur de la Station spatiale internationale. C'était une sensation unique qui m'a fait sentir tout petit. Comment vous êtes-vous préparé à partir dans l'espace? J'ai commencé à me préparer 2 ans avant la mission. J'ai suivi un programme d'exercice très strict. Par exemple, je courais ou soulevais des poids tous les jours. Je m'entraînais aussi dans une piscine pour recréer la sensation de l'espace. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui rêvent de devenir astronautes? Poursuivez vos rêves, mais profitez également de tout le parcours qui vient avec. Allez à l'école, continuez jusqu'à l'université et trouvez quelque chose qui vous passionne. Ne poursuivez pas seulement un objectif. Assurez-vous de vous amuser en cours de route. N'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination. C'était « On a rencontré un astronaute autochtone à avoir voyagé dans l'espace », un texte des As de l'Info, paru le 29 décembre 2023 dans « La Liberté » au Manitoba.